Siyambonga kakhulu uNkulunkulu.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la vie encore aujourd'hui afin que nous puissions voir la lumière même de cette journée. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons et nous-mêmes nous devons remercier le Seigneur. Juste le fait de pouvoir se réveiller le matin et de pouvoir nous lever et pouvoir nous atteler à nos tâches, ce n'est que grâce. Ce n'est pas le fruit de notre volonté ou d'une quelconque mérite, mais ce n'est que grâce. Grâce du Seigneur. Et notre prière est que, où que ce soit que les enfants de Dieu se réunissent, que le Seigneur soit parmi eux, et que cette réunion puisse être comme de la nourriture que nous recevons de la part de Dieu, et qui nous permettra d'avancer dans la journée. Nous nous rapprochons du temps de Pâques, la période de l'année durant laquelle nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et nous nous rappelons déjà comment l'année dernière nous n'avons pas pu nous réunir et comment chacun a alors dû remercier et louer le Seigneur, chacun dans son coin. Et pour cette année encore, très probablement, ce sera de la même manière, en raison toujours des contraintes liées au Covid, coronavirus. Et ici même, à la mission, Kwasizamanto, nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur, parce que le Seigneur a effectivement fait beaucoup de choses pour nous. Et au travers de cela, nous ne pouvons que dire et reconnaître que les mots sont bien peu de choses, sont passés pour pouvoir remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et même dans certaines régions où il y avait de la sécheresse, quelle merveilleuse nouvelle d'entendre que certaines de ces régions ont reçu de la pluie. Et ainsi, nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Donc, il y a différentes régions, Moy River, Lichtenberg, différentes régions que nous avions mentionnées et pour lesquelles nous avions prié. Et quelle merveilleuse chose d'entendre que le Seigneur a exaucé la prière et qu'ainsi ils ont eu cette pluie attendue ou espérée. Parfois, nous sommes surpris. Peut-être dans certaines autres régions, la pluie n'a pas été aussi abondante. peut-être s'il n'y a eu que quelques gouttes. Mais même pour cela, nous devons et nous voulons remercier le Seigneur. Une autre matière ou sujet pour lequel nous voulons reconnaître et remercier la main de Dieu, c'est ce qui concerne le collège. Alors ici, le collège, c'est l'école de professeurs. On appelle ça college en anglais. On dirait une école supérieure d'enseignement. Donc précédemment, c'était une institution qui était sous la coupe ou sous l'autorité de l'université de Northwest, et donc qui était nommée Cedar College, donc l'institut supérieur du cèdre. Et en raison des difficultés qu'il y avait avec l'enseignement sous la coupe de l'université Northwest, et donc maintenant nous pouvons remercier le Seigneur de ce que, à partir de maintenant, le collège, donc l'institut supérieur d'enseignement, va pouvoir désormais être indépendant, reconnu par le ministère de l'Éducation, mais le collège devient donc indépendant. Donc, l'institut a été renommé l'Académie internationale du Cèdre. Et donc va pouvoir, à partir de cette année, opérer donc le département, le ministère de l'Éducation nationale a reconnu, donc a donné l'agrément officiel à l'Institut, donc à l'Académie internationale du Cèdre, pour devenir un institut à part entière, un institut d'enseignement supérieur à part entière, donc reconnu par le ministère. Donc, le ministère reconnaît le diplôme qui sera délivré pour faire enseigner ou former des professeurs de l'enseignement. Donc, ils auront un diplôme qui est désormais reconnu officiellement et donc ils pourront... À partir d'aujourd'hui, l'Académie va pouvoir recruter et faire la publicité et continuer son action avec une pleine reconnaissance de la part des autorités sud-africaines. Donc si vous avez besoin, vous voulez avoir de l'information, il y a un nouveau site internet, et vous avez aussi une adresse email où vous pouvez envoyer des questions ou si vous avez besoin d'informations. et la cerise sur le gâteau est que cette reconnaissance a été aussi reconnue, où l'autorisation a été aussi donnée au collège de pouvoir aussi faire un enseignement même à distance. Donc même au niveau international, quelqu'un pourra suivre les cours à distance et le diplôme sera reconnu de la même manière que s'ils avaient été présents dans les locaux. Donc certaines personnes ont déjà commencé. Quand est-ce qu'on peut commencer ? Donc pour l'instant, nous devons encore finaliser un certain nombre de décisions et de choses pour commencer officiellement des cours et commencer officiellement de former des professeurs. Donc le maire, on pourrait dire le conseiller général, chaque fois qu'il parle de Pasteur Stegen, c'est étonnant de voir ce qu'il dit. Et même il met au défi les gens avec qui il parle en leur disant « Mais est-ce que vous connaissez le Pasteur Stegen mieux que moi, je le connais ?» Donc ça c'est le... On dit le maire du district, qui serait l'équivalent du conseiller général. Et ce maire ou cette personnalité a surnommé le pasteur Stegen comme étant celui qui persévère, qui continue à faire ce que le Seigneur lui a donné à cœur de faire. Et nous aussi, nous voulons remercier mon clair Lowe, le pasteur Stegen, de nous avoir montré la voie aussi avec l'académie ou le collège. Il a toujours continué en montrant le chemin. Il a persévéré malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, et nous voulons le remercier pour cela. Donc merci pour l'occasion qui m'a été donnée de partager ces différents points. Nous remercions le Seigneur pour nous accorder cette chance ou cette occasion de nous réunir ce matin. Et nous pouvons déjà tellement nous réjouir de la nouvelle, des nouvelles que nous avons entendues. N'est-ce pas merveilleux de voir Dieu agir de manière même quotidienne? Et nous sommes reconnaissants d'avoir l'Institut de supérieur d'enseignement. Et ils ont travaillé dur pour obtenir cet agrément. Et au cours des derniers mois, des dernières années, ils ont mis tout en œuvre, ils ont beaucoup travaillé pour que cette décision puisse être favorable. Mais cela nous montre aussi que Dieu est un Dieu non seulement d'ordre, mais aussi en son temps. Il est souverain sur les temps et il répond en son temps, comme lui le veut. Et ici, dans notre pays, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de beaucoup de chaos parmi la jeunesse, avec un certain nombre de choses qui se passent dans les universités sud-africaines en ce moment, de manifestations. Et donc le Seigneur nous accorde d'avoir un institut supérieur d'enseignement et qui nous permettra, qui permettra d'enseigner justement cette jeunesse dans un temps qui n'est pas favorable ici. Donc, je ne peux que encourager vous, les parents, si vous avez le désir que votre enfant reçoive non seulement une bonne éducation académique, mais aussi une éducation spirituelle, une éducation dans tous les domaines de la vie. Alors, vous pouvez, si votre enfant le souhaite, et que votre enfant souhaite devenir enseignant dans le primaire, alors vous pouvez l'encourager à postuler et à s'enregistrer à se postuler pour cette formation. Et alors c'est avec ces mots que nous souhaitons vous saluer où que vous vous trouviez, et nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi vous encourager, vous rappeler de ne pas rater les réunions qui auront lieu pour le week-end de Pâques. J'ai entendu dire que certains ont déjà posé la question en disant « Mais est-ce que nous allons avoir encore Pâques à la maison ?» Alors que l'année dernière, nous étions déjà à la maison. Est-ce qu'il va falloir qu'on reste à la maison encore cette année ? Et vous avez déjà des différentes dénominations, différentes églises qui veulent manifester leur mécontentement pour demander au gouvernement et obliger le gouvernement à lever certaines restrictions afin de permettre de se rassembler durant le temps de Pâques. Alors, je dois dire que je comprends ce sentiment et j'ai une certaine empathie pour un tel sentiment. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est souverain, que Dieu a toutes choses entre ses mains et que déjà, dans le passé, le Seigneur nous a aidés dans ces temps, aussi dans ces temps de Pâques l'année dernière. Et donc, nous avons confiance qu'il va encore une fois nous aider, nous accompagner dans ce temps de Pâques. Oui, bien sûr, on a ce désir, cette aspiration de nous retrouver, d'avoir la communion ensemble, de se retrouver face à face et de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Mais le Seigneur peut aussi utiliser ce temps de test, de difficulté, et le Seigneur alors utilise ce temps pour éprouver notre foi. Et peut-être qu'utilise-t-il ce temps pour nous révéler comment notre foi est ancrée. Et alors, nous apprécierons encore plus le jour où nous nous retrouverons de nouveau et que nous pourrons communier ensemble. Dans la parole de Dieu, nous lisons comment il y a eu des Il y aura des temps de famine spirituelle où les hommes et les femmes iront de droite et de gauche et ne trouveront pas de nourriture spirituelle. Et pour nous, même si il est vrai qu'il y a des restrictions, que nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, mais nous pouvons encore remercier le Seigneur de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources qui nous permettent d'être nourris spirituellement. Donc la question qui se pose à nous est, est-ce que toi, en ces temps difficiles, en ces temps particuliers, est-ce que ta foi est fondée? Est-ce qu'elle est ferme? Ou est-ce qu'au contraire, en raison de ces confinements, de ces restrictions, de ces contraintes, est-ce que ta foi s'est écroulée ou est-ce qu'elle a continué, elle se renforce? Alors, avant de continuer, nous voulons prier. Notre Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la vie. Merci de nous avoir permis de nous réveiller ce matin, de nous avoir donné ce merveilleux don de pouvoir entendre ta parole ce matin. Et aussi pour tes enfants qui sont en différents endroits, nous voulons te remercier, nous voulons te louer et t'adorer pour la pluie que tu leur as accordée après avoir prié. Et pour ceux encore qui ont ce désir, cette attente d'avoir de la pluie, nous te prions, Seigneur, de ne pas les oublier. Et aussi, Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir entendu les prières de ceux du collège et que tu aies ouvert les portes pour que ce collège devienne un institut supérieur d'enseignement indépendant et reconnu par les autorités. Seigneur, nous voulons te remercier pour la persévérance, pour la continuité de mon Clairlo qui a eu cette vision d'avoir cet institut de formation et il n'a jamais faibli, il a persévéré jusqu'à ce que cette décision soit prise d'être reconnu par les autorités. C'est comme tu as donné le désir d'avoir cet institut, que tu puisses aussi donner, accorder les personnes désormais qui pourront être impliquées dans cette œuvre, qui puissent avoir le cœur pour cela. Et Seigneur, alors que nous allons maintenant rompre le pain de vie, le pain de ta parole. Que ce ne soit pas seulement des paroles que je prononce moi-même, mais que ce soit toi, Seigneur, qui parle à nos cœurs, qui parle à chacun d'entre nous. Et Seigneur, toi, tu connais chacun, tu connais le désir et l'attente, le besoin de chacun, que tu puisses répondre à cela dans ta grâce. Et nous demandons tout cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons lire un passage dans le livre de Jonas. Au chapitre 1er, verset. Donc, dans la Bible Zoulou, le titre du paragraphe est « Jonas fuit loin de Dieu ». Alors ici, dans ma version du semeur, donc Jonas 1er, chapitre, verset 1er. Donc dans ma Bible, c'est aussi la fuite de Jonas. Donc verset 1, il est dit « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Verset 3, Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. » Nous passons directement au verset 8, donc toujours de premier chapitre. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu ?» Verset 9, Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Verset 10, il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Nous voulons arrêter la lecture à ce verset. Quand vous lisez ce passage, cela, c'est une histoire avec du suspense parce que vous voulez savoir la suite. Vous ne pouvez pas vous arrêter juste là. Vous voulez voir ce qui va se passer ensuite. Et alors, si vous commencez à lire le premier chapitre, alors vous devez de lire la suite pour voir quelle est la suite et la fin de cette histoire. Parce que ce sujet, cette histoire est tellement riche d'enseignements que je pense même on pourrait avoir une série de réunions avec différents sous-titres ou sous-sujets parce que cette histoire est tellement riche qu'elle permettrait de parler pendant plusieurs réunions. Mais pour aujourd'hui, le thème, le sujet que je souhaiterais aborder est le sujet de la désobéissance de Jonas. Nous aurions pu aussi parler de son infidélité. Un autre sujet sur lequel on pourrait parler, à savoir la tempête que Dieu a levée contre Jonas et les conséquences de cette tempête. Nous pourrions aussi regarder et considérer comment d'autres personnes ont souffert à cause de la désobéissance de Jonas. Mais en même temps, nous pouvons voir le plan de Dieu et comment Dieu poursuit le pécheur, comment il lui accorde la grâce et il lui donne toujours à nouveau une chance. On pourrait dire la patience de Dieu avec l'homme, même l'homme qui s'enfuit loin de sa présence. Dieu le poursuit et ne le lâche pas. Mais aujourd'hui, nous voulons considérer et nous arrêter sur la désobéissance de Jonas. Dieu lui-même a appelé Jonas et Dieu avait un appel précis. Il a demandé quelque chose de précis à Jonas. Quand Dieu a vu le besoin à ce moment-là, à cette époque-là, Dieu a vu le besoin de Ninive. Et alors il a vu Jonas et il a demandé, il a appelé Jonas à répondre à ce besoin, à remplir cette tâche. Et Dieu n'a pas fait de mystère ou n'a pas caché ce qu'il attendait de la part de Jonas. Dieu même dit au verset 2, car l'écho de la méchanceté des habitants de Ninive est parvenu jusqu'à moi. Donc c'est pourquoi va, proclame. Dans ma version, il dit proclame des menaces contre les habitants de Ninive. Et Jonas, dans sa réponse à ce que Dieu lui a demandé, il n'a pas dit ouvertement, « Seigneur, je ne peux pas faire cela, je ne suis pas prêt, je ne veux pas faire cela. » Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous mettre nous-mêmes dans les chaussures, on pourrait dire, de Jonas, et de nous poser nous-mêmes la question de la manière dont nous répondons à l'appel que Dieu nous a adressé. Alors, peut-être, vous dites, « Oh, mais ceux qui sont appelés ne sont de toute façon que ceux qui se lèvent en chair, que ceux qui prêchent, qui sont à l'avant. » Mais chaque enfant de Dieu a reçu un appel de la part de Dieu. Et Dieu t'appelle t'a appelé à abandonner ta vie de non-croyant, ta vie de païen, pour vivre une vie d'enfant de Dieu. Donc chacun et chaque jour, nous devons vivre de telle manière à répondre à cet appel, à vivre en rapport avec ce que Dieu nous a appelé, nous a demandé. Et là, Dieu appelle Jonas et l'envoie à Ninive. Et on pourrait dire, il les envoie. Il l'envoie auprès des gens de Ninive, dans, on pourrait dire, une opération de secours, pour secourir les habitants de Ninive. Et Jonas, au lieu d'obéir et de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, nous voyons qu'il est dit qu'il s'est enfui loin de la présence de l'Éternel. Et en cela, nous voyons la tromperie de Satan, au point où il arrive à influencer quelqu'un à penser s'enfuir de la présence de Dieu. Et alors que Jonas s'enfuit de la présence de Dieu, c'est comme si les portes s'ouvrent, comme si les choses se mettent en place pour qu'il puisse effectivement s'enfuir loin de la présence de Dieu et ne pas faire ainsi ce que Dieu lui a demandé. Il semble que tout se mette en place pour que cela se réalise. Donc il est dit qu'il descendit à Jaffa et là il trouva un navire et il paye le prix. Et on pourrait dire toutes les portes étaient ouvertes pour qu'il puisse ne pas faire ce que Dieu lui avait demandé. Ainsi, comme si le diable mettait tout en place et l'avait trompé même au point où de se dire que les choses se mettent en place pour lui, que les portes sont ouvertes. Et très souvent, enfant de Dieu, Satan, le diable, peut venir dans des temps de difficulté et alors il te présente un chemin, une issue de secours facile. Et peut-être cela te semble la bonne issue de secours à cause de la facilité avec les choses, avec laquelle les choses se mettent en place. Tu as l'impression que voilà l'issue de secours que Dieu me présente, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que Jonas a dû se réjouir en voyant le bateau. Il semble qu'il arrivait le bon timing, où il arrivait au bon moment pour pouvoir monter dans ce bateau, même en payant le prix. Et il a dû se dire, mais les choses se mettent en place pour moi, afin que je n'aie pas à faire ce que Dieu m'a demandé. Mais très souvent, quand les personnes fuient loin de la présence de l'Éternel en prenant le chemin facile, l'issue de secours que le diable leur présente, Et alors, c'est comme si le diable ouvrait les bras pour accueillir la personne et ainsi lui présenter un chemin. Alors, par exemple, imaginons qu'il y a une jeune fille dans l'église qui tombe enceinte et alors qui est rappelée à l'ordre, qui est disciplinée, et plutôt que de se repentir et d'accepter de reconnaître sa faute, alors elle va s'enfuir et peut-être que le diable va mettre les choses en place pour que d'autres l'accueillent et la reçoivent et ainsi lui montrent que la décision qu'elle a prise était justifiée. Mais bien souvent, cela ne dure pas longtemps. Et alors, cette jeune fille se retrouve seule et sans espoir. Et Jonas, dans cette histoire, a pensé que pour échapper à ce que Dieu voulait de lui, il pouvait juste s'enfuir loin de la présence de Dieu. Mais Jonas n'a pas réalisé que, on pourrait dire, il est sauté de la poêle et il est tombé directement dans le feu. Alors, toi, enfant de Dieu, toi et moi, nous avons été envoyés, nous avons reçu un appel. Et alors, est-ce que tu es là où le Seigneur t'a envoyé? Es-tu là où Dieu te veut? Peut-être est-ce effectivement, tu es là où le Seigneur t'a envoyé, mais fais-tu ce que le Seigneur t'a demandé là où il t'a envoyé? Peut-être nous sommes arrivés à cet endroit où Dieu nous voulait, mais à cause des difficultés, des circonstances difficiles, alors tu as cherché à sortir de ces circonstances en essayant de trouver un raccourci, une issue de secours facile de ces circonstances, afin de ne pas faire ce que Dieu t'a demandé. Alors, c'est peut-être facile aujourd'hui de lire l'histoire de Jonas et de commencer à critiquer Jonas, de juger Jonas en lui disant « Ah, mais Jonas, tu es stupide parce que tu pensais t'échapper ou t'enfuir loin de la présence de Dieu, mais Dieu est partout. » Donc c'est facile pour nous de juger et de pointer du doigt Jonas. Mais qu'en est-il de notre propre vie? Nous voyons d'autres personnes, là, dans cette histoire, on pourrait dire des personnes complètement innocentes, étrangères à ce qui se passait dans le cœur et dans l'histoire de Jonas. Et ces personnes se retrouvent dans une situation périlleuse, dans une situation même mortelle, à cause de Jonas. Et n'en est-il pas ainsi aussi dans notre vie, frères et sœurs? À cause de notre désobéissance, à cause de notre infidélité, peut-être Dieu nous a donné un appel, Dieu nous a demandé quelque chose, et à cause de notre désobéissance, d'autres personnes se retrouvent dans une mauvaise situation. Alors laissez-moi donner un exemple. Je voudrais donner un exemple pour illustrer cet état. Alors, tu es peut-être dans une école et tu es enseignant. Et parce que tu as le diplôme, tu as les compétences pour être enseignant, et alors tu enseignes dans une école. Mais peut-être Dieu ne t'a pas appelé à cela, ne t'a pas appelé à l'enseignement. Peut-être tu as fait un choix par défaut en te disant « Ah, je vais faire ça pour l'argent ». Et alors, peut-être même les portes se sont ouvertes pour que tu puisses être enseigné, tu puisses avoir cette formation d'enseignant. Mais en même temps, le Seigneur ne t'a jamais demandé, ne t'a pas appelé à cela. Et alors, peut-être tu as fait tout de manière logique, avec la raison. Et peut-être même tu as justifié ce choix de devenir professeur en disant « Ah, mais le jour où je serai enseignant, je pourrai aussi partager l'évangile avec ses enfants. » Et pourtant, Dieu ne t'a pas appelé à cela. Parce que, en fait, la raison peut-être est l'argent, le fait d'avoir le titre d'enseignant et tout ce qui peut, le prestige qui peut aller avec. Et alors, autour de toi, dans ta famille, d'autres personnes souffrent à cause de ton choix. Peut-être Dieu t'avait appelé à être agriculteur, à labourer, à conduire le tracteur pour planter. Et toi, tu as désobéi et tu préfères être assis dans un bureau avec la climatisation. Et à cause de ta décision, les personnes dans ton entourage souffrent. Alors, Jonas a été envoyé à Ninive. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive. Peut-être il se disait que ces Assyriens étaient trop méchants. Peut-être ils méprisaient cette nation. Et cela donc l'a amené à refuser d'obéir. Peut-être avait-il toutes sortes de raisons pour justifier sa désobéissance. Et peut-être l'appel que Dieu a pour toi, est-ce que tu l'évalues avec tes yeux humains, avec ta raison? Et alors, avec ta pure logique, tu te dis que cet appel ne correspond pas à ce que tu souhaites ou à tes attentes, ne répond pas à tes attentes. Et alors, en raison de ton choix, en raison de tes décisions, tu fais souffrir ton entourage. Peut-être une personne peut même dire « Ah, mais j'ai l'appel de venir à la mission, de travailler dans l'œuvre de Dieu, sous la responsabilité du pasteur Stiegen, sans même avoir été demandé. Et peut-être après 2-3 ans, peut-être plusieurs années, tu vois que d'autres enfants de Dieu te souffrent à cause de ta décision, parce que Dieu ne t'a pas appelé à cela. Et peut-être même l'assemblée souffre à cause de cela, à cause de ta décision, à cause de ton appel. Parce que tu as pris cette décision en te basant sur ton désir, sur ce que toi tu voulais et non pas sur ce que Dieu t'a demandé. Alors, on peut avoir certaines personnes qui viennent, qui sont pieuses, qui viennent dans certaines assemblées et en venant, en disant « je suis appelé à servir » et pourtant, ce sont des loups avec des habits de brebis. Peut-être cet appel n'était pas motivé par l'obéissance à Dieu, mais motivé peut-être pour des raisons financières ou motivé pour des raisons de prestige. Et alors, quand les choses ne se passent pas comme la personne s'imaginait, alors l'appel tout d'un coup le change. Ou d'autres pensent que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. Mais une fois qu'il se retrouve de l'autre côté de la clôture, alors il se rend compte que l'herbe n'est pas si verte. Et alors il se rebelle ou il commence à changer d'attitude. Et ainsi, nous voyons comment l'appel de Dieu est influencé, non pas par ce que Dieu demande. Non, l'appel de Dieu est motivé par toutes sortes de facteurs. Ça peut être financier, ça peut être quelle voiture je vais pouvoir conduire, quel prestige je vais pouvoir avoir. Alors l'appel de Dieu est complètement... Ce n'est pas une question d'obéissance à ce que Dieu a demandé. Si une personne est appelée par Dieu, alors ce n'est pas en fonction de ses attentes. Peut-être même, il se dit, « Ah, si je suis à la mission, peut-être je pourrais prêcher à l'auditorium et devant ces foules. » Mais cet appel n'est pas motivé par l'obéissance à Dieu, mais par des motivations qui sont étrangères. Et alors l'Assemblée, l'Église de Dieu doit souffrir à cause de cela. Donc la question se pose, es-tu là où le Seigneur t'a appelé? Et deuxième question, est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé? Donc, es-tu là où le Seigneur t'a demandé d'être et fais-tu ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi que certaines personnes abandonnent leur appel, abandonnent leur église? Il y en a tellement, à droite, à gauche, devant, derrière. Ce sont des gens qui n'avaient pas d'appel de Dieu. Ce sont peut-être des personnes qui ont vu d'autres être appelés par Dieu à tel ou tel endroit, et alors ils n'ont fait qu'imiter, ils n'ont fait que reproduire, mais ce n'était pas quelque chose de personnel, ce n'était pas une conséquence de l'obéissance à Dieu. malheureusement, certaines personnes sont influencées et souffrent à cause de la décision de cette personne. Imaginez, par exemple, si moi, je prends ma propre décision, je fais ce qui me semble bon, et alors je prends la tangente, et alors d'autres personnes me suivent. Et alors, vous avez un certain nombre de personnes qui souffrent à cause de ma décision, à cause de ce que j'ai fait. Certaines personnes alors essaient de se justifier en disant « Non, non, je suis libre aujourd'hui, je suis libéré, je suis totalement libre, même depuis que je suis parti. Et alors, maintenant, peut-être tu t'habilles de manière comme tu veux. » Et aujourd'hui, tu justifies un certain nombre de décisions en disant « Non, mais je suis libre désormais, je n'ai pas besoin, je ne suis pas sous la loi. » La manière peut-être de t'habiller, qui était auparavant modeste, démontre aujourd'hui que tu es libre, certes, mais libre de suivre les penchants de ton cœur et de suivre le péché. Peut-être toi, épouse, tu étais respectée, tu étais honorée en tant que madame, de la manière dont tu respectais ton mari, et maintenant tu as choisi, tu es descendue à Jaffa, tu as pris le bateau pour Tarsis, et alors tu t'habilles comme tu veux. Tu te comportes comme Jonas, où tu fais ce que tu veux. Et peut-être même tu n'honores et tu ne respectes plus ton mari et tu fais ce qui bon te semble. Et ce fait de dire « Ah, je suis libre, je suis libéré », alors, rappelez-vous, si vous êtes à Jaffa, ils disent « Ah, je suis loin de la présence de Dieu, je peux faire ce que je veux, je peux m'habiller de la manière dont j'ai envie », est-ce là la liberté que Jésus a parlé ? Certains justifient de telles choses en disant « Oui, mais Jésus lui-même a dit « Je vous rendrai libre ». Mais Jésus ne parlait pas de cette liberté. Il parlait de la liberté du péché, de la délivrance du péché. Non pas de la liberté de faire ce que l'on veut. Et peut-être Dieu nous a appelés à vivre une vie libre du péché, libérée de toute immoralité. Mais alors tu te retrouves à un endroit où tu veux te marier et tu dis « Ah, mais je vais aller loin de la présence de Dieu et je vais faire ce que je veux envie. Alors je vais aller à Jaffa et je vais m'enfuir loin de la présence de Dieu. » Et peut-être à cause de cette question du mariage, tu te retrouves à Jaffa et tu te retrouves dans un bateau qui t'emmène loin de là où le Seigneur te veut. Peut-être même tu atteins Tarsis. Et à cause de ton infidélité, à cause de ta désobéissance, tant de personnes autour de toi doivent souffrir à cause de ta désobéissance, à cause de ton infidélité. Alors la question se pose, es-tu là où le Dieu t'a demandé d'être et fais-tu ce que Dieu t'a demandé de faire ? Si nous sommes occupés avec l'appel que Dieu nous a donné, alors nous avons la paix. Et nous avons la paix intérieure, mais aussi la paix autour de nous, parce que nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes en train d'obéir à ce que Dieu nous a demandé. Et là, dans ce bateau, alors que la tempête faisait rage, alors que les vagues s'abattaient sur le bateau et que les marins craignaient pour leur vie, alors il est dit, verset 8, les marins lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur, d'où viens-tu, quelles sont tes occupations ?» Je ne sais pas comment, quelle était l'apparence de Jonas. Est-ce qu'il était habillé d'une certaine manière, peut-être comme un costume avec cravate, ou point que les autres pouvaient se dire « Ah, mais c'est une personne importante ». Non. Mais au sein de la tempête, les marins se sont présentés à lui. Et on pourrait dire, ils lui ont posé la question, « Dis-nous, qui es-tu vraiment ?» Et peut-être toi, tu vas, comme jeune fille, tu changes ton apparence, tu t'habilles comme le monde, tu mets du maquillage et peut-être à un moment donné tu te retrouves dans la même situation que Jonas où les gens du monde te disent et te demandent mais qui es-tu vraiment, parce que peut-être souffre-t-il. Et alors, ils arrivent au point où ils sont obligés de te poser la question, « Mais qui es-tu vraiment ? Révèle-nous, qui es-tu ? » Et toi, tu pensais, « Non, je suis libre, je m'enfuis loin de la présence de Dieu. » Mais même ces personnes qui t'ont pourtant accueilli au départ, alors leur regard change sur toi et tout d'un coup, tu n'es plus si bienvenu. Peut-être tu loues et tu adores le Seigneur et tu rentres peut-être même dans une transe, une sorte de transe, mais les gens autour de toi font fi de cette apparence. Et ils viennent à toi et ils te disent, maintenant, qui es-tu ? Dis-nous vraiment, qui es-tu ? À cause de cette tempête, à cause de cette confusion. Et alors, ils en arrivent à te demander, qui es-tu vraiment ? Vous savez, quand toutes les choses vont bien, quand le bateau est sur une mer d'huile et qu'il n'y a pas de vent, alors on peut tromper les autres. Mais quand la tempête se présente, quand les vagues, quand le vent souffle, alors les apparences, les masques tombent. Et alors on ne peut plus se cacher et faire semblant. Quand Jonas est arrivé là à Jaffa, peut-être on lui a donné un siège au premier rang, Peut-être qu'on lui a montré sa cabine dans le bateau et tout le monde était peut-être très heureux de le voir arriver. Mais ça, c'était parce qu'il ne savait pas qui il était. Mais il ne savait pas que Jonas fuyait loin de la présence de Dieu. Il ne savait pas que Jonas était en train de désobéir. Et peut-être qu'il en est ainsi aussi. Peut-être tu t'enfuis, tu dis « je suis libre, je fais ce que je veux ». Et alors, peut-être toi tu es un prédicateur, et alors peut-être d'autres t'accueillent et disent « non mais viens, deviens notre prédicateur ». Et tout le monde te loue. Mais attends. Attends la tempête, attends le vent, attends que les vagues se déchaînent. Et alors on verra la vraie couleur. On verra comment les gens vont te traiter. Peut-être tu es prédicateur et alors les gens vont dire « ah, c'est formidable, tu peux nous apporter la parole ». Et ces personnes même ne réalisent pas que tu es en train de t'enfuir loin de la présence de Dieu. Tu es en train de t'enfuir, de ne pas répondre à l'appel que Dieu t'a donné, que tu es en train de désobéir. Et attends de voir lorsque la tempête va se présenter, comment ces mêmes personnes qui t'auront accueilli avec les bras grands ouverts, comment ils vont alors te traiter. Et là, ils demandent. Ils disent « Jonas, qui es-tu? D'où viens-tu ?» Alors Jonas a été obligé de répondre. Il dit « Je suis hébreu, je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur révèle même des choses qu'ils n'ont pas demandées. Les marins ne lui avaient pas demandé s'il révérait l'Éternel. Ils lui ont demandé « D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Quelles sont tes occupations ?» Et donc il a répondu à cela en disant « Je suis hébreu ». Mais il a dit ensuite « Je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Alors, quand il était dans la mer, dans la tempête, c'est là qu'il a réalisé que Dieu n'est non seulement le Dieu des cieux, mais c'est aussi lui qui a créé la terre et la mer. Et toi, jeune fille, peut-être tu t'enfuis de l'Église. Tu t'enfuis de la discipline de tes parents, tu veux faire ta propre volonté, tu vas dans le monde peut-être et tu es accueilli par les filles de ce monde, mais sache que tu ne réalises pas que la tempête arrivera et alors ces mêmes personnes qui t'auront accueilli les bras ouverts vont alors te demander « Qui es-tu? D'où viens-tu ?» Révèle-nous qui es-tu vraiment. Et toi, tu t'enfuis de l'Église, tu t'enfuis de l'Évangile, tu te dis « Ah, mais l'Évangile m'empêche de vivre librement, de faire ce que je veux. » Mais sache, va, fais ce qui te semble bon. Mais un jour, la tempête se présentera et alors on te demandera « Qui es-tu vraiment ?» Et alors, vous avez ceux qui prennent leur propre chemin, qui disent « Ah, mais Dieu m'a appelé à autre chose. » Dieu m'a appelé à aller dans cet tel endroit. Et plus tard, les larmes coulent parce que on réalise que ce n'est pas vrai, ce n'était pas l'appel que Dieu a réellement donné. Ah, combien de regrets, combien de larmes quand tu réalises j'ai été désobéissant face à la tempête, quand les autres marins te demandent qui es-tu, d'où viens-tu, et que tu dois alors reconnaître j'ai désobéi, comme Jonas a dit, il est dit qu'il a il leur a appris qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Peut-être tu étais dans ton appel, tu étais respecté par ta propre épouse comme étant son mari, comme étant son seigneur. Mais aujourd'hui, tu es parti, tu as abandonné ton appel au point où ta propre épouse ne sait même plus ce que tu es vraiment, qui tu es vraiment. Peut-être auparavant tes enfants t'honoraient, te respectaient comme étant leur père, comme étant le chef de la famille. Et aujourd'hui, tu te saoules avec eux. Tu es devenu copain-copain avec tes propres enfants et tes enfants alors ne te respectent plus. Tes propres enfants qui auparavant te respectaient, qui écoutaient ce que tu disais. Mais aujourd'hui, ils ne t'écoutent plus, ils vivent comme bon leur semble, même ils pêchent devant tes yeux et tu ne dis rien et ils n'ont plus aucun respect pour toi. Oui, peut-être quand tu es descendu à Jaffa, il y avait toute une foule qui te suivait. Tu étais un héros qui te respectait et qui t'honorait. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Dans la tempête, face aux vagues, où sont toutes ces personnes? Alors que tu es monté dans le bateau, peut-être, tu as été porté, tu as été loué par ces personnes qui criaient, qui te louaient. Alors la question se pose, qu'en est-il aujourd'hui dans cette tempête, ces mêmes personnes qui te louaient, comment se comportent-elles aujourd'hui? Oui, auparavant, ils t'honoraient, ils te louaient, et en te disant, tu es un héros pour nous, tu te tiens pour la vérité, pour la bonne chose. Mais maintenant que la tempête est là, maintenant que les vagues sont là, comment se comportent-elles ces personnes, les mêmes qui te louaient? Et tu sais toi-même que tu n'es pas là où le Seigneur t'a appelé. Tu n'es pas en route pour Ninive parce que tu es en train de t'enfuir. Tu t'enfuis vers Tarsis. Alors pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons été appelés par Dieu, sommes-nous là où Dieu nous a appelés? Faisons-nous ce que le Seigneur nous a demandé? Et peut-être tu es monté dans ce bateau et ce bateau part au large. Peut-être es-tu heureux d'être dans ce bateau en disant « ça y est, je m'enfuis loin de ce que le Seigneur m'a demandé ». Mais sache que Dieu était non seulement présent au départ du bateau, mais il sera là aussi à l'arrivée du bateau. Il sera là à Tarsis, il t'attend. Il est toujours là à t'attendre. Et comme je l'ai dit, nous n'avons aujourd'hui que considéré un aspect de l'histoire de Jonas. Mais si vous lisez la suite, vous voyez comment Dieu a eu compassion de Jonas, comment Dieu l'a poursuivi, ne l'a pas lâché, et il lui a montré compassion et grâce, parce que Dieu voulait aussi faire grâce aux habitants de Ninive. Alors que le Seigneur nous accorde que nous puissions apprendre de Jonas, de son expérience. Et alors, posons-nous nous-mêmes la question, est-ce que nous sommes fidèles à l'appel que Dieu nous a donné? Est-ce que vous savez ce qui était et ce qui est la plus grande tragédie de cette histoire de Jonas? À cause de sa désobéissance, cette histoire devient une tragédie. Tout est devenu une tragédie à cause de sa désobéissance. Il a été appelé, il a été envoyé à Ninive, une nation païenne, avec un message d'espoir. Un message d'espoir pour des personnes qui étaient prisonnières du culte des idoles. Des personnes qui étaient prisonnières de l'oppression de forces démoniaques. Son message était « Il y a de l'espoir. Repentez-vous devant Dieu dans la cendre, le sac et la cendre, et alors Dieu peut vous accorder une nouvelle vie, peut vous donner une espérance. » Voilà le message que Jonas devait présenter à Ninive. Mais à la fin, quel est le message qu'il donne aux païens, aux marins païens dans le bateau? Est-ce qu'il leur a donné ce message d'espoir? Est-ce qu'il leur a montré, voilà la solution à vos problèmes? Est-ce que Jonas a parlé aux marins en leur montrant le chemin de la repentance et comment à être en ordre avec Dieu? Non. Quel est le message qu'il a transmis aux marins? La solution, c'est le suicide. Voilà le message que Jonas a alors donné aux marins. La solution pour faire face, mettre fin à cette tempête, c'est le suicide. Voilà la solution que nous avons, que Jonas a présentée face aux tempêtes de la vie. Alors, imaginez la responsabilité, la culpabilité sur les épaules de Jonas. Et heureusement, Jonas n'est pas mort. Et même à la fin de l'histoire, Jonas, nous ne savons pas si Dieu lui a donné l'occasion de se repentir. Mais si Jonas avait été mort, alors Jonas aurait été responsable de la mort éternelle de dizaines, de milliers, de centaines de milliers de personnes à Ninive, et même de la vie des marins. Parce que il leur a apporté un autre message. Le message de « Ah, si tu veux mettre fin à tes problèmes, alors supprime-toi. Mets fin à tes jours et alors tu régleras les problèmes. » Alors voyez, mes amis, voilà la fin des choses lorsque nous commençons à être désobéissants au Seigneur. Au lieu d'être la lumière que Dieu envoie dans ce monde avec ce message d'espérance, ce message de libération du péché, d'espoir, de pardon des péchés, alors à cause de la désobéissance, nous allons dans le monde avec un message de désespoir. Et Jonas est là, dans ce bateau, et les marins auraient pu se dire, il est là, c'est un homme de Dieu, il connaît tout ce qui concerne le Dieu, l'Éternel, le Dieu du ciel. Et là, nous sommes face à la tempête. Alors, son Dieu veut un sacrifice. Et voilà la conclusion auquel ils auraient pu arriver. Le sacrifice que son Dieu attend, c'était un sacrifice qui n'était pas quelque chose d'étranger dans ces cultures de l'époque. Ce message que c'est en te sacrifiant toi-même que tu vas apaiser les dieux. Alors voyez, comment tu envoies dans le désespoir, même tu donnes un message qui vient directement du fin fond de l'enfer, ce message qui ferait croire que pour régler tes problèmes, il te suffit de te supprimer, de te suicider. Oh, mes amis, le prix de la désobéissance à Dieu, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas le calculer. Le nombre d'âmes que le Seigneur a peut-être présentées sur ton chemin et tu as échoué, on ne pourra estimer, on ne peut calculer le nombre d'âmes et le dommage créé à cause de ta désobéissance. Et c'est entre parenthèses, si je peux me permettre, voilà la situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde occidental. Et nous voyons comment certains pays, et certains pays sont en avance. Et les Pays-Bas ont montré le chemin d'un certain nombre de choses. Et en ce moment même, nous avons un cas et un procès ou en justice où certains veulent pour légaliser l'euthanasie. Où vous arrivez, on pourrait dire, la solution est de se supprimer, solution au problème. Et vous avez même en Suisse maintenant une entreprise qui a mis en place des chambres avec vue sur les Alpes. Et alors vous pouvez demander à un médecin de venir vous faire une piqûre pour vous supprimer. Et alors vous êtes là, ils vendent ça comme étant dans des bonnes dispositions pour mourir. Et nous avons ici aussi en Afrique du Sud un tel cas où une personne est en train de faire un procès pour légaliser l'euthanasie. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à une telle situation dans des pays qui ont été pourtant chrétiens? C'est parce que il y a eu cette désobéissance à l'appel que Dieu a donné. Alors, mon ami, crie à Dieu. Si tu as échoué à être ce Jonas que Dieu a appelé à aller à Ninive, si tu as tourné le dos pour aller à Jaffa, alors crie à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras le sang d'hommes et de femmes sur tes mains un jour. Ce n'est pas seulement toi qui te fais du mal, tu sèmes aussi ces graines de désespoir dans le cœur des personnes, par exemple, avec lesquelles tu travailles. Qu'est-ce que l'ange a dit quand Jésus est né? Bonne nouvelle pour tous les hommes. L'évangile de Jésus-Christ est un message de bonne nouvelle. Que l'anneau de Dieu a été égorgé, sacrifié pour nos péchés. Et que par cela, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons prier ensemble. Ô Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous as touchés profondément. Nous te remercions pour ce message de ta parole. Combien cette nourriture est importante. Cette nourriture que nous avons reçue n'est-elle pas importante pour nos âmes? Seigneur, accorde-nous la grâce que nous ne balayons pas du revers de la main ce que nous avons entendu, mais que, au contraire, nous puissions l'accepter, que nous puissions nous humilier, que nous puissions nous repentir pour les choses que tu nous as montrées, que nous puissions changer de vie avec un réel remords pour les choses que nous avons faites, afin de recevoir le salut, afin de recevoir le pardon des péchés. Seigneur, nous te demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.